soi ce week-end. On emmagasine. Je ne pense pas qu'on fasse une overdose parce que c'est tellement intéressant. Mais c'est vrai que c'est riche. Et donc c'est tellement important de peut-être de prendre des notes. En tout cas, on pourra réécouter tout ça. Ça, c'est bien. Je rappelle pour donc il y a des gens qui partent, il y en a d'autres qui arrivent. Je rappelle que vous pouvez nous laisser vos coordonnées si vous voulez. La boîte est là-bas. Nicolas est plus là. Voilà, s'il y a des gens nouveaux là qui sont arrivés, on prendra vos coordonnées pour vous tenir au courant de. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se sont pas inscrits sur les petits coupons? Il y a des petits coupons à rendre? Non, c'est bon. Si, à rendre? Il y a des coupons à rendre là. Et s'il y a des gens qui ne les ont pas remplis, on en a encore des vierges. Alors, pour recommencer cette session, on va commencer par un témoignage. Mais avant le témoignage, je voulais vous présenter quelque chose que beaucoup de Nîmois connaissent. C'est une école sur Nîmes qui s'appelle l'école Marie-Durand. L'école Marie-Durand, c'est une école protestante très ancienne. Puisqu'elle date de 1844, hein, l'école Marie-Durand, c'est 1844, donc ça fait un bail. C'est une école qui a été créée par un pasteur méthodiste. Donc à l'origine, c'est bien une école évangélique qui a démarré. C'est un pasteur méthodiste en 1844 qui, avec son épouse, a créé ce qui au départ était un pensionnat de jeunes filles. Et puis qui, après pas mal de péripéties, donc je vais vous lire un survol de l'historique de cette école, est devenue vraiment une école protestante qui existe toujours et qui fait une œuvre, une belle œuvre. Donc en 1844, création d'un pensionnat pour demoiselles chez un pasteur protestant et son épouse. Ce que je vous lis là, c'est en fait ce qui a été fait à l'occasion des 150 ans de l'école. Donc c'était en 1994. Donc elle a maintenant 170 ans, cette école. En 1939, les pensionnaires sont disséminés, c'est la guerre, dans les établissements nîmois et l'école est réduite à un petit jardin d'enfants, simplement. En 1943, des enfants juifs et des résistants sont hébergés dans l'école. Après un bombardement, les sœurs franciscaines, dont la clinique a été endommagée sur Nîmes, retrouvent un refuge dans l'école, donc qui est transformé en une espèce d'hôpital là, à ce moment-là. Le deuxième étage est transformé en chapelle catholique où le père supérieur vient célébrer la messe. Donc il y a une collaboration fraternelle et enrichissante. En 1944, à la Libération, des combattants du maquis sont accueillis et hébergés dans l'école. En 1968, de gros travaux sont faits dans l'école. Et en 1974, il y a la création de nouvelles classes, etc., etc. Il y a les sœurs de Pomerol, notamment, qui sont investies, et sœur Berthe, qui est la directrice de l'école. L'achat d'un bâtiment mitoyen. Et en 1990, l'école qui gardait un internat jusque-là, l'internat est fermé et l'école s'agrandit encore. Donc c'est une école qui fonctionne toujours aujourd'hui. Donc là, c'était en 1994. Dans le dépliant, il était dit, l'école Marie-Durand est une école protestante où l'on pratique l'éveil à la foi chrétienne et à la culture biblique. C'est un lieu de vie où foi et activité quotidienne se rencontrent. Depuis 20 ans, ce témoignage évangélique a bien diminué. Comment? Même moins de 20 ans, voilà, ces dernières années en tout cas. Donc, à notre connaissance, il n'y a plus beaucoup de témoignages évangéliques officiels, en tout cas. Notre fils de 15 ans, y était il y a quelques années. Il y avait encore la prière, la lecture biblique le matin. Tout ça semble avoir disparu. Mais je voulais rendre hommage quand même à cette école, qui est un bel exemple, un petit peu lié à l'histoire, justement, du protestantisme. Et un pasteur méthodiste évangélique qui a lancé ça 150 ans après, il y a encore une œuvre qui se fait, même si elle n'est plus tout à fait ce qu'elle était. il y a encore des valeurs qui persistent, etc. Et donc, on a le plaisir d'avoir Liliane Rousset qui a accepté de venir donner un petit témoignage. C'est une dame que je voudrais honorer, qui est une femme de Dieu, qui a été directrice de cette école pendant un certain nombre d'années, je ne sais pas combien, tu nous donneras, pendant 25 ans, et qui a maintenu ce témoignage évangélique et qui a impulsé la vie et le témoignage évangélique et les fêtes chrétiennes, etc. Donc, je trouvais que c'était intéressant, de même qu'on a eu le témoignage de l'école à la maison tout à l'heure, d'avoir le témoignage d'une dame, d'une directrice d'école qui a réussi à insuffler et à conserver ce témoignage évangélique pendant tout le temps de sa présence à la direction de l'école. Et ça, c'est formidable. Donc, je vous invite à accueillir Liliane Rousset.
Ah, d'accord. Je salue tout le monde et je remercie Joël de m'avoir invité. Je reconnais quand même quelques personnes. Voilà, donc il a dit une petite partie de ce que il faut vraiment un micro.
Ah oui.
D'accord. Voilà, d'accord. Oula. Voilà, donc je suis donc il y a une partie qui a été déjà dite. Donc je suis là en tant qu'ancienne directrice de l'école Marie Durand. Donc, l'école Marie-Durand, je relis quand même, parce qu'autrement, il va falloir que je saute. Alors, l'école Marie-Durand est une école protestante qui appartenait à l'église méthodiste. C'est pourquoi elle n'a pas été bradée avec toutes les autres écoles. Au départ, donc, ça devient d'être dit, c'était un pensionnat de jeunes filles. Puis ensuite, bon, alors je suis après, allez, après. Au fil des ans, les classes ont été créées jusqu'en CM2, voilà. Quand je suis arrivée en 1975, il y avait 8 classes, 5 classes primaires et 3 classes maternelles. Pour 5 de ces classes étaient sous contrat et 3 classes hors contrat. Alors, je vais vous parler un peu de mon cursus, comment j'ai fait pour atterrir dans cette école, vraiment dirigée par la main du Seigneur. J'ai été pendant 20 ans institutrice en Algérie. En 1962, donc au moment de l'indépendance, j'ai demandé au Seigneur l'autorisation de rester dans ce pays que j'aime. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu es là dans ma volonté, mais un jour, tu iras où tu ne veux pas aller et tu feras ce que tu ne veux pas faire. Alors, alors l'endroit où je ne voulais pas aller, c'était la France. En fin de compte, je voulais aller n'importe où pourvu que ce soit l'Algérie. Voilà. Et tu feras ce que tu ne voudras pas faire. Ce que je ne voulais pas faire, c'était être directrice. Parce que je pense que les directeurs, c'est un peu difficile. Ils sont un peu en dehors de tout. Mon frère était directeur de l'établissement où j'exerçais. Et au début, il était enseignant. Et le jour où il a été directeur, il a pris un peu de distance parce qu'il ne fallait pas favoriser la petite sœur. Et puis, je trouve que les directeurs, c'est difficile parce qu'ils sont un peu tampons avec tout le monde, les inspecteurs, etc., avec tout le monde. Voilà, donc ça, c'était la promesse du Seigneur. Et puis, à partir de 1962, donc j'étais... Ça va, pour la voix. Alors, à partir de 1962, j'étais dans l'office culturel français, donc à Mostaganem. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est de Mostaganem, là aussi. Et voilà, donc... Et puis, en 1974, on nous a dit, voilà, il y a la loi des 6 ans. C'est une loi française qui fait qu'on ne peut pas rester plus de 6 ans à l'étranger dans l'enseignement pour rentrer en France pour les formations. Donc, en 1974, j'ai su qu'en 1975, je quittais l'Algérie. Donc, pour moi, c'était très, très dur. C'est un pays que j'aime. C'est un peuple que j'aime. C'est vraiment, tout mon cœur est là. Mais bon, et un jour, le Seigneur... On était tous rattachés à un département du nord de la France, au nord de la Loire. Tous les pieds noirs, moi, je n'étais pas pieds noirs, mais tous ceux qui étaient depuis là plus de 6 ans, ils étaient rattachés dans un département au nord de la France. Moi, je crois que c'était le Pas-de-Calais, pour moi. Et le Seigneur m'a parlé un jour d'une façon très, très forte. Et le Seigneur m'a dit, j'interviendrai pour toi. Tu iras dans le midi de la France. Et c'était comme une épée qui me traversait le cœur. Je n'avais vraiment pas envie de partir dans le midi de la France, ni ailleurs d'ailleurs. Donc après, je suis arrivée en France. On est venu en été. Moi, j'ai gardé ma villa. J'y suis retournée pendant longtemps. Et donc, c'était le 15 août, donc juste avant la rentrée de 75. Et je lisais un texte sur Moïse. Et dans ce texte, je voyais qu'il y avait une fête. Je voyais les gens qui dansaient. Et moi, j'étais là et je dis, mais Seigneur, pour moi, il n'y a pas de fête. Je ne sais même pas où je vais aller, je ne sais rien. Et c'était le 15 août. Et je me souviens, le soir, mon frère est arrivé. Mon jeune frère, il venait d'Espagne. Et il avait fait un camp avec le pasteur Berus, qui est un pasteur de l'Église réformée. Et quand il est arrivé, quand il a voyagé, il était avec une institutrice de l'école Marie Durand. Moi, je ne savais pas du tout que l'école Marie Durand existait. Mes parents qui habitaient à Nîmes ne savaient pas non plus. Et cette institutrice lui a dit, voilà, dans notre école, on cherche une institutrice spécialiste, enfin une institutrice de CM de cours moyen. Et c'était ma spécialité. Elle lui a dit, la directrice refuse tous les postes, toutes les candidatures, mais on ne sait toujours pas s'il y a encore, si elle n'a pas accepté quelqu'un pendant les vacances. Donc, mon frère arrive à la maison, il dit, voilà, il y a un poste, il y a une école protestante, etc. Et moi, j'avais envie de rien, il faut dire. Et quand mon amie est arrivée chez elle, elle avait une carte de la directrice, donc c'était Sœur Berthe, hein, c'est Sœur de Pomerol. On fait beaucoup pour l'école Marie Durand. Quand elle est arrivée chez elle, elle avait une carte de la directrice qui lui disait « J'ai toujours personne pour mon cours moyen. » Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'école Marie Durand. Alors, au départ, j'avais toujours l'idée dans ma tête de retourner un jour en Algérie. Donc, j'ai simplement pris une disponibilité de 2 ans. J'ai dit, je fais 2 ans en France et après, je repars là-bas. Et puis, donc, j'avais mon cours moyen première année. Et puis, au bout de 15 jours, j'étais hors contrat parce qu'étant donné que j'étais toujours fonctionnaire, je devais être hors contrat. Et puis, au bout de 15 jours, la directrice, qui était Sœur Berthe, dont on vous a parlé tout à l'heure, vient me voir et elle me dit, voilà, il y a un problème parce que vous avez un effectif qui est valable pour un contrat, la maîtresse du CM2 n'a pas assez d'effectifs pour un contrat. Donc, il y a 2 solutions. Ou bien vous prenez le CM2 et vous lui laissez votre CM1, donc elle aura le contrat, ou bien vous démissionnez. Oh, pour moi, c'était horrible de dire que j'allais démissionner de l'enseignement public et renoncer pour toujours à aller enseigner en Algérie. Et puis, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, lâche, il faut lâcher. Donc, j'ai démissionné. Je reconnais que c'était quelque chose qui m'a coûté cher. Mais je n'avais pas la paix. Si je n'avais pas accepté, je n'aurais pas eu la paix. Et je crois que la paix avec le Seigneur, c'est la chose la plus belle qu'on puisse avoir. Et c'est comme ça que j'ai enseigné à Marie Durand pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, la directrice... Sœur Berthe est rentrée à Pomerol et elle m'a dit « Bon, Liliane, j'aimerais que vous me remplaciez. » Alors ça, c'était la deuxième partie, la promesse, de faire ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire être directrice. Et j'ai demandé au Seigneur et le Seigneur m'a dit ceci, il m'a dit « Je t'aiderai ». Donc, ça voulait tout dire. Et je dois dire, enfin, je pense que je suis au milieu de chrétiens qui le savent déjà, je dois dire que le Seigneur m'a merveilleusement aidée. Je suis restée en tout 27 ans dans cette école. J'étais là pour 2 ans, je suis restée 27. Et je dois dire que le Seigneur m'a vraiment aidée tout le long de ce temps. Il m'est arrivé de faire des erreurs. Donc là, quand on fait des erreurs, des fois, on a des petits retours de coups de bâton. Mais vraiment, ça a été quelque chose de tout à fait formidable d'être aidée par le Seigneur. Donc, j'ai plus suivi du tout mes notes. Alors, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Donc, j'avais une super équipe. On s'entendait très, très bien. Alors, le problème, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec le directeur de l'enseignement catholique. Le problème pour nous, c'était le recrutement. Alors, au début, les institutrices arrivaient avec leur baccalauréat Et puis elle suivait une formation avec l'enseignement catholique. On avait de très très bonnes relations. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec Sœur Maryse Pascal, avec M. Allard. Donc il acceptait qu'on assiste aux formations, mais elle n'était pas obligée de passer par une école normale. Et au bout d'une formation, les institutrices passaient un CAP sur place. Et donc elles étaient institutrices. Donc il n'y avait pas de problème. Et là, on a eu des institutrices chrétiennes qui avaient vraiment opté pour cette école parce qu'elles avaient envie d'enseigner dans une école protestante. Les autres institutrices venaient de l'enseignement catholique. Alors, la plupart du temps, c'était des institutrices qui étaient venues faire des remplacements. Et puis, elles s'étaient plus dans l'école. Et quand il y avait un poste qui était libre, eh ben, elles venaient dans notre école pour enseigner. On a toujours eu une très bonne relation. J'avais vraiment, le Seigneur m'a aidé, il m'a envoyé rien que des gens qui étaient bien. Alors, au point de vue de l'éveil spirituel, on avait tous les matins 10 minutes d'éveil spirituel. Donc, dans ces moments-là, on lisait la Bible, on priait, on chantait. Alors, il n'y avait pas de programme voulu. Chacune faisait selon son cœur. Alors, les institutrices catholiques étaient souvent dans des petites classes, mais quand elles étaient dans des classes plus importantes, elles venaient me voir, elles me disaient « Est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que je peux dire ça ?» Elles ont vraiment joué le jeu pour que vraiment l'enseignement de la Bible soit donné. Et donc, par rapport aux inspecteurs, là, Joël m'avait demandé, donc on a eu des inspecteurs qui ont toujours été bienveillants. Ils savaient, donc, parce que sur notre emploi du temps, on marquait éveil spirituel, ils savaient qu'on avait un éveil spirituel le matin, mais ils n'ont jamais fait de remarques. Notre premier inspecteur, c'était un protestant, donc on n'avait pas de problème. Alors, il m'a dit, vous savez, je ferme les yeux. Bon, merci, fermez les yeux. Et puis après, il y en a eu un autre, alors ça m'a beaucoup touché ce qu'il a dit. Pendant que je lui faisais visiter l'école, il a passé sa main sur le mur et il m'a dit « Cette école a une âme, il faut la lui conserver. » Et je crois que c'est un des plus beaux compliments qu'on ait pu faire à notre école. Vraiment, une école qui a une âme, ça nous a vraiment touchés. Voilà. Mais je regarde un petit peu la suite. Donner quelques témoignages de ce qu'on a vécu dans l'école. Alors, ce n'était pas toujours idyllique, il y avait aussi des difficultés, mais on a vécu des choses très, très belles avec le Seigneur, avec les enfants. Dans ma classe, je crois que c'était la première année, j'avais la fille du pasteur Solanas de l'église baptiste, que peut-être certains d'entre vous ont connu. Et il y avait une de ses petites copines, et elles avaient... la petite copine avait aussi une Bible. Alors, mes élèves m'ont demandé, mais comment elle a une Bible, Elisabeth ? Et ben, la petite Solanas a dit, Mireille Solanas a dit, ben, c'est mon papa qui la lui a offerte. Et puis, c'est resté là. Et puis, un matin, je vois M. Solanas qui arrive avec un gros cartable. Et il me dit, voilà, je vous apporte les Bibles. Alors, j'étais très étonnée. Il me dit, tous les élèves de votre classe ont commandé des Bibles. Et donc, voilà, je ne savais rien, en douce, ils avaient commandé des Bibles. Et puis après, alors je me souviens d'un petit garçon là, qui est maintenant avocat et qui était un petit gros dur, là, qui aimait le foot, etc. Et puis il vient et puis il me dit, vous savez, maîtresse, moi, la Bible, hein, je l'ai payée avec ma tirelire. Et ça avait toujours resté. Il était tellement heureux d'avoir payé sa Bible avec sa tirelire. Et c'est vrai que pendant les moments d'éveil spirituel, vraiment, j'ai entendu des enfants prophétiser. Ils prenaient leur Bible, ils disaient un verset qui touchait nos cœurs. Vraiment, j'ai vu des choses magnifiques se faire avec les enfants. Ce qui était le plus touchant, peut-être, c'était l'ambiance. J'ai vu des enfants se demander pardon. J'ai vu des enfants dire, moi je renonce, j'ai gagné le concours, mais je renonce parce que là, elle, ça va l'encourager si je passe. Voilà, donc c'est toute une ambiance dans une école. Voilà, je vous le dis pour vous encourager parce que c'est vraiment des choses très fortes. J'ai vécu aussi quelque chose de très beau avec une petite fille. C'était la fille d'un commissaire de police. Et cette petite fille est venue un matin pendant la récréation et puis elle me dit, maîtresse, je ne sais pas pourquoi, mais je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse. Alors, je ne savais pas du tout pourquoi. Et l'après-midi, elle est venue. Elle me dit, vous savez, maîtresse, je souffre du dos depuis longtemps. Je ne peux jamais porter quelque chose. Et cet après-midi, j'ai porté ma camarade sur mon dos et je ne souffre plus. Il y avait une guérison spontanée de la part du Seigneur qui voit ses petits cœurs. Je me souviens aussi d'une petite fille qui était venue me voir et puis elle me dit, vous savez, maîtresse, il faut que je vous dise quelque chose. Je ne crois pas en Dieu. Alors j'ai dit, mais tu sais, c'est beau ce que tu dis parce que ce que Dieu n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Et toi, tu n'es pas une hypocrite. Tu ne crois pas et tu ne fais pas semblant. Et je pense que ça a touché cet enfant. À la fin de l'année, elle est venue me voir et puis elle m'a dit, vous savez, maintenant, je crois en Dieu. Et j'ai trouvé que c'était beau. Et vous savez, en vie, moi, j'ai vécu des choses magnifiques dans cette école. Je rends grâce au Seigneur pour l'équipe que j'ai eue, pour tout l'environnement. Donc, on avait un moment de prière, et ça, je pense que c'est très, très important. On avait un moment de prière à l'interclasse. Les institutrices venaient si elles voulaient. Ce n'était pas du tout obligatoire. Et on priait à ce moment-là pour les différents problèmes dans l'école. On a même fait des nuits de prière où on avait des institutrices, on avait des membres du personnel de l'école, on avait des jeunes filles de l'internat et puis des amis aussi. On priait pendant donc une partie de la nuit et puis pour cette école. Et voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à mon départ en 2002, on a gardé ces temps de prière et je pense que c'est très important. Enfin, je ne sais pas, dans vos projets, je pense qu'il faut qu'il y ait un soutien très fort par la prière. Tout avance comme ça. C'est la prière qui fait avancer les choses. Parmi les institutrices aussi, j'ai je ne sais pas l'heure, hein, mais parmi les institutrices aussi, j'ai eu des témoignages. Ben, une institutrice qui m'a téléphoné il y a 2 ou 3 ans et elle était dans une très grande détresse et elle m'a dit qu'elle n'en pouvait vraiment plus. Et on a prié ensemble au téléphone. Et elle m'a dit, au fur et à mesure qu'on priait, je sentais l'angoisse qui partait. Et elle est vraiment, tout va bien, on continue à correspondre. Et elle a été bénie, mais elle avait passé un temps de dépression terrible. Et le Seigneur vraiment l'a bénie. Y en a une autre qui m'a retrouvée par Internet. Elle avait fait simplement un remplacement chez nous. Et puis Dorodès, elle m'a appelée, elle m'a dit, je vous ai retrouvée par Internet. Et je voulais vous dire que ces moments de prière, ça m'a amené au Seigneur. Et maintenant, j'ai rejoint mon église. Elle est dans une église catholique, très bien. Et elle m'a dit, j'ai rejoint mon église. Donc moi, je vous encourage beaucoup à, si vous ouvrez ça, si vous avez ça sur le cœur, je crois que le Seigneur vous aidera, le Seigneur vous conduira. Mais n'oubliez pas que l'important, c'est de tout porter dans la prière. Je sais que les temps sont beaucoup plus difficiles. Les enfants sont beaucoup plus difficiles maintenant, les lois sont absolument terribles, mais je crois que si Dieu a un plan, ça va marcher, je vous encourage. Et si le Seigneur vous envoie là où vous ne voulez pas aller et vous dit de faire ce que vous ne voulez pas faire, moi je le bénis vraiment parce que j'ai retrouvé quand même plein, le Seigneur me met plein d'Algériens sur mon chemin, j'en ai dans mon immeuble, on parle de Jésus. Et je crois que s'il vous dit, obéissez parce qu'il connaît vraiment ce qu'il y a de meilleur pour nous. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié, je voulais lire. Mais...
Merci Liliane, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça valait le coup, hein? Le témoignage, c'est formidable. Je ne savais pas que tu avais dû quitter comme ça, faire ce pas de foi de quitter l'administration, l'éducation nationale.
L'école privée, en plus, dans la ville où j'étais en Algérie, il y avait une école privée. Et ceux qui allaient dans l'école privée, c'est ceux qui n'avaient pas réussi dans l'école publique. Alors pour moi, ça avait un petit côté, c'est un peu moins bien que nous. Et ça a été dur aussi parce que une école comme une autre, comme la nôtre, il n'y avait aucune sécurité de l'emploi. Sœur Marie-Pascale m'avait dit, bon, si vous avez des problèmes, on vous recasera. Mais il suffisait d'un rien, d'une institutrice qui n'aille pas du tout et que les parents retirent les élèves pour que l'école, elle ne tienne pas. Hein. Puis elle a tenu, on est arrivé, bon, on avait 200 élèves, voilà. Et puis j'ai toujours de très bons contacts avec les parents aussi. Et voilà, donc le Seigneur sait quand il fait quelque chose. Il faut obéir.
Merci. Luc nous a parlé plusieurs fois du prix à payer. Pour les écoles chrétiennes, et merci pour ce témoignage dont je connaissais qu'une toute petite partie, mais c'est super. Merci beaucoup, et on peut continuer à prier pour cette école qu'on aime. Voilà, une école qu'on aime et qu'on prie que la bénédiction de Dieu continue. Et si un autre projet naît, ce sera en relation et surtout pas en comparaison ou quoi que ce soit. Le conseil d'administration de Marie Durand a été invité à cette conférence, a été au courant. Hein. Voilà. On veut vraiment faire dans le relationnel et ça, c'est très important pour nous. Luc, ça va? Donc, on continue notre séminaire. Normalement, à la vidéo, on peut mettre, sur l'écran, tu peux mettre le prochain PowerPoint. Il est prêt.
Merci. Voilà, donc merci pour ce témoignage. C'était tellement frais. C'est difficile de passer après parce qu'on a envie de dire, tout est dit, quoi. On a senti le cœur de Dieu, l'obéissance aussi, et puis le cœur pour les enfants, les fruits des gens qui, après des années, reprennent contact. Ça me rappelle un ancien élève chez nous d'une famille non chrétienne qui était venu en 1986 au début de l'école, pendant 2 ans seulement. Et puis on l'a perdu de vue, et visiblement, il n'avait intégré aucune église ni rien. Et puis il y a 2-3 ans, à notre fête de l'école, fête annuelle à la fin de l'année, un grand gaillard vient me voir, là, il me dit, vous rappelez de moi? Alors quand on me dit ça, moi j'ai du mal, moi, je ne me rappelle pas, moi, des visages, ça change tellement. Et il me dit, oui, vous étiez mon professeur de français, là, mon directeur, là, en telle année, je dis, je me rappelle. Il me dit, vous savez, j'aimerais vous dire, j'ai fait à l'armée et j'étais en Afghanistan et j'ai vu la guerre. Et là-bas, je me suis rappelé tout ce que j'ai reçu chez vous. Et quand il est revenu, il s'est donné au Seigneur. Et maintenant, il est engagé dans une église à Colmar. Et c'est un ancien élève qui a été le moyen aussi pour le toucher, l'encourager. Donc voilà, j'aimerais parler de cette notion de l'école chrétienne comme une communauté éducative, et vous donner quelques témoignages de ces débuts d'école et de ses parents. Vous savez, le mot parent, ça veut dire parer les enfants. Nous sommes appelés à parer nos enfants. Et donc ces parents, dans ce pays de France et ailleurs, ont été à l'origine de beaucoup des écoles. Je crois que la majorité, c'était les parents, parfois des enseignants avec, mais je n'ai pas connu d'implantation d'école sans que les parents soient au cœur du projet et de la vision. Et puis, donc voilà, quelques témoignages, et puis ensuite on parlera un peu de la notion d'alliance et de famille, de communauté éducative. Alors, j'aimerais vous montrer quelques photos, puisqu'on parle de communauté, de famille. Eh bien, je vais vous montrer ma femme, voilà. Elle est là, s'appelle Manuela, et puis sans elle, il n'y aurait pas d'école. C'est tous les deux. Je me rappelle quand j'enseignais dans le public, et puis je rencontre ce papa, qui avait un papa d'église ménonite, qui avait le projet, l'idée d'une école chrétienne. Moi, je trouvais ça un peu saugrenu, mais ça a touché mon cœur. Et puis après, il a fallu le projet, j'ai senti que c'était un projet de Dieu. J'étais jeune chrétien, j'avais 25 ans, un an d'expérience d'éducation, d'enseignement. Et alors, j'ai senti ce projet de Dieu, mais le problème, c'est qu'il fallait larguer les amarres. Et nous, on attendait un enfant, le premier, Et puis voilà, j'étais jeune prof, voilà, pas facile quoi. Cette école chrétienne, c'est bien beau, mais il n'y a pas de locaux, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de parents quoi. Hein. Donc voilà. Et puis bon, on a fait une association. Et puis avec quelques parents, on priait une fois par mois et on demandait au Seigneur, Seigneur, donne-nous des locaux, on veut des profs, on veut. Et puis il n'y avait pas grand-chose qui venait, hein. Il n'y avait pas grand-chose. Et arrive Pâques 1986. On voulait ouvrir le collège 6e et 5e en septembre. Et là, notre prière, c'était un directeur, quoi. Moi, je ne pouvais pas l'être. Il fallait 5 ans d'expérience pour être directeur. Et alors, on priait, Seigneur, donne-nous un directeur. S'il n'y a Pâques, il n'y a pas de directeur, bon, bah, c'est que, Seigneur, ce n'est pas ton projet, quoi. À Pâques, pas de directeur qui se profile. Et puis, Et nous, on a les propositions d'emploi dans l'école privée sur Mulhouse. Moi en tant que prof de philo, ma femme en tant que prof de lettres, de langue. Puis on a ces propositions là, et ce projet, il n'y a pas de directeur. Et là on a un coup de fil d'un parent qui nous dit tenez bon, c'est un projet de Dieu. Et là quand on a vu les courriers, on a déchiré, on a mis la poubelle, on a dit Seigneur, s'il te plaît un directeur, on croit que c'est toi, mais juillet, un directeur. Arrive juillet, pas de directeur, pas de locaux, pas d'argent. Une petite association, quelques parents, un petit peu d'enseignants quand même, mais loin d'avoir le compte. Et nous, notre maison, avec mon épouse, on avait le premier enfant, et puis on ne voulait pas le baptiser. On pensait, on est évangélique, hein, voilà. On veut baptiser quand il sera grand, immersion, enfin, voilà, totale, quoi. Et la grand-mère, elle nous avait prêté ce logement, elle nous dit, dehors, vous choisissez, hein, ou c'est le baptême, ou... Vous irez. Donc, on avait plus de travail, plus de maison, plus rien. Alors, un jour, on était avec le landau, là, au zoo de Mulhouse. Et on se regarde avec ma femme, on se dit où on est fou, ou vraiment. Et puis, on a éclaté de rire, tous les deux. Et c'était le début. Donc, il fallait qu'elle suive, hein, il fallait qu'elle. Voilà, sans elle, c'était pas possible. Et donc, en juillet, je cherche des locaux partout. J'écris à toutes les églises de la région. Donnez-nous deux salles, deux petites salles, quoi. Personne ou répond pas, ou négatif. J'écris à toutes les mairies, Mulhouse, environ, toutes les banlieues. S'il vous plaît, on chercherait deux salles à louer. Rien du tout. Et là, il y a un moment, le Seigneur, il me dit, laisse tomber, fais-moi confiance, va en vacances. Alors, je pars en vacances. Et comme quoi, les vacances, c'est très important. Et je vais chez mon papa à Toulon, et Toulon, c'est la plage. Donc, plage, le bébé, bronzage, et puis on ne sait pas ce qu'on allait devenir. Et alors, là, il y a eu des choses extraordinaires, extraordinaires. Quelqu'un nous a dit, demandez à Dieu ce que vous voulez comme maison. J'ai dit, ben, moi, j'aimerais bien une villa, quoi. Une villa avec un jardin, avec une salle de bain, avec une baignoire, Seigneur, etc. J'ai demandé, on avait écrit. Et puis, le frère de l'association, le trésorier, il venait de faire un héritage, une maison, une belle villa. Il me dit, écoute, vas-y, rentrez, c'est pour vous. Je dis, mais attends, tu sais qu'il n'y a pas encore de salaire, il n'y a rien. Hein. Vous rentrez, c'est pour vous. Quelques jours après, c'était fin août, ça, après le 15 août, hein, quelques jours après, la mairie où il y avait la maison de Sausheim, banlieue de Mulhouse, le député maire nous dit, voilà, nous avons des salles pour vous. Il avait dit non. Ben, il a dit oui. Il a dit, voilà, c'est une école publique, mais on n'a plus d'élèves. Donc voilà, c'est pour vous. Alors il y avait la cour de récréation, les platanes, les salles. Et il nous dit, c'est formidable. On commençait à se dire, oh là là, il y a un projet, Dieu est là, quoi. Hein. Alors bon, mais il manquait les pupitres, les tableaux, les chaises, les tables et les élèves, parce qu'il y avait très peu de parents intéressés et il manquait des tas de profs. Il manquait l'anglais, il manquait des heures en français, il manquait le sport. Et je me rappelle, ceux qui connaissent l'histoire, j'avais des cauchemars parfois la nuit, je me voyais faire le sport. En plus du français, de l'histoire géo, de tout. Alors, je me voyais courir comme ça, et les enfants derrière, j'ai dit, Seigneur, au secours. Alors, j'étais allé dans une librairie chercher les programmes de collège. C'est quoi un collège? Moi, je ne me rappelais plus. Moi, j'étais 25 ans, c'était le vieux, le collège. Donc, les horaires, le français, 5 heures, l'histoire géo. J'ai fait le programme pour la rentrée. Il n'y avait toujours pas de directeur. Et on avait dit à l'Éducation nationale, voilà, on va faire une école, on vous donnera le dossier du directeur très prochainement. Et les plans des locaux, très prochainement aussi. quand j'y pense, je dis c'est terrible. Et on a donné le projet en juillet. Et l'administration française, s'il n'y a pas de nom, c'est que c'est toléré. Mais en juillet, il n'y a personne dans l'administration. Donc voilà, le dossier... Alors on arrive fin août, donc la maison se débloque, les locaux d'école, et puis le jour de la rentrée arrive, toujours, il manque des tas de profs. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et il n'y avait que 12 élèves, il en fallait 20 pour un budget. Mais on n'avait que 12, pas de subvention d'État, rien. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on est dit, on y va quand même, arrive le premier jour. Et le premier jour, il manquait le mobilier. Donc les 12 élèves, durs. J'avais écrit à des brocantes chrétiennes et tout, pour s'il vous plaît, aidez-nous, tout ça. Et le jour de la rentrée, un gros camion semi-remorque arrive de Suisse. Il avait reçu notre courrier. Il dit, voilà, on a des tas de pupitres, tableaux pour vous. Nos élèves de 6e et 5e ont déchargé les camions. Et ils se sont dit, c'est une drôle d'école quand même. Hein, une drôle d'école. Et alors, dans l'emploi du temps, il y avait des trous. Il y avait des trous. Et alors, le soir du jour de la rentrée, des enseignants du public chrétien, ils avaient reçu leur emploi du temps. Et ils me téléphonent le soir, ils me disent, voilà, on a des trous dans notre emploi du temps, on est prêt à vous aider. Et leur trou correspondait à nos trous dans mon emploi du temps. Et mon prof de sport le voit qu'il arrive. Il arrive de 30 km, mais il arrive. Et puis tous sont venus et les trous se sont bouchés. Et alors le directeur, vous allez me dire, eh bien on a su qu'on pouvait demander une dérogation. Dérogation du stage quinquennal, ça s'appelle. Et j'ai eu la dérogation. Alors les parents, quand ils voulaient inscrire leurs enfants, ils allaient voir, ils me disent à moi, où sont vos parents? C'est pour inscrire l'enfant, la direction. Alors je dis, c'est moi la direction. Mais quand j'y pense, je dis, mais c'est incroyable. Je dis, c'est comme... J'aime bien une phrase, c'est pas biblique, mais c'est une phrase qui ressemble un peu. C'est Raymond Devos hein, qui dit « Avec rien, vous faites rien. Avec deux fois rien, vous faites rien. Mais avec trois fois rien, on peut déjà faire quelque chose. » Et bien voilà, on a démarré avec trois fois rien et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais il a fallu faire des choix. On a senti l'appel de Dieu aussi, hein, c'était pas des choix. Voilà. Et donc on a été bénis dans cette école. Arrive la rentrée. Donc, deux semaines après la rentrée, l'inspecteur d'éducation nationale, il arrive, il toque à ma porte, il me fait sortir de la classe, il me dit, Monsieur Bussière, j'aimerais vous dire que vous êtes dans l'illégalité la plus totale. Dans les 15 jours, je vous fais fermer. Au revoir. J'étais là. Et c'est là que je me dis, l'appel d'intercession est venu, là. La prière et moi, c'était pas bon. La prière, oui, c'est bien, mais... Et là, quand tu arrives à ça, tu dis « Seigneur !» Et puis, on n'a plus de nouvelles. On passe septembre, octobre, novembre, décembre, pas de nouvelles. Ni de l'éducation nationale, ni de l'académie, ni de personne. Arrive janvier, l'inspecteur revient. Et puis, je l'accueille chez moi parce qu'il n'y avait pas de place. Alors, on lui offre le café, les gâteaux. Très gêné, il a dit « Attendez, il faut être plus professionnel. » J'ai dit « Écoutez, nous, c'est... » Voilà. On fait des bisous à tout le monde. Alors, on allait tendre la... Enfin, je ne vous raconte pas les détails. Et alors, donc, il me dit, mais comment vous fonctionnez? Il s'excuse d'abord. Il me dit, écoutez, voilà, il n'y a pas eu de procédure de désaffectation des locaux. C'est des locaux, normalement, de l'école publique. Et c'était à la mairie de faire cette procédure. Donc, ce n'est pas votre faute. Et donc, le maire, quand l'académie a dit, cette école-là, il faut la fermer, le maire, le député maire, a dit, moi, je leur ai dit, j'ai donné l'ouverture. Personne ne la fera fermer. C'était notre Cyrus, si vous voulez. Un non-chrétien, tout ça. Hein. Et voilà. Et alors, donc, dans cet inspecteur, je lui dis, ben voilà, moi, je suis à plein temps, j'enseigne, voilà, j'ai une formation philosophe. Alors déjà, là, c'était quoi ça? Il fait le français, l'histoire, alors qu'il a une formation philosophique. Bon, ça, c'est d'autres choses. Et puis alors, il me dit, mais vos enseignants, vous les trouvez où? Ben, je dis, ben, ils viennent du public, là. Du public? J'ai dit, oui, ils sont tous bénévoles. Bénévoles? Alors, il me dit, bénévole du public? Mais je dis, oui, il y en a qui donnent 3 heures, 4 heures, 5 heures par semaine. Ah bon? Et il me dit cette phrase historique chez nous, mais vous êtes bénis de tous les dieux? Et alors je dis, mais un seul suffit. Voilà. Et ça a été le début de l'aventure. Et chaque année, la mairie nous disait, écoutez, on ne sait pas si vous allez pouvoir continuer parce que nous avons des effectifs et un jour, en 90, il dit, dans 2 ans, il faudra que vous quittiez. Nous avions 110 élèves. Il faudra quitter parce que, voilà, on a besoin. Et donc, on a cherché des locaux partout, sans trouver, sans rien. Arrive fin juin 92, on ne trouve aucun locaux pour nos 110 élèves. On avait toutes les classes de collège, on avait des classes de primaire aussi qui se sont développées. Rien du tout. On déménage les pupitres, on déménage tout, on stocke dans des fermes de Mennonites et on se dit, mais où on va être en septembre ? Alors les parents, quand même, ils réinscrivaient les enfants, mais ils nous disaient à propos, ça aura lieu où ? Et nous, on ne savait pas. Et je me rappelais toujours, il y a une maman non chrétienne, tout ça. Elle voit une maman chrétienne, elle lui dit, écoutez, avec eux, de toute façon, vous n'en faites pas. Leur Dieu leur accorde tout ce qu'ils veulent. Moi, ça, c'était fort. Et alors, du coup, il s'est passé qu'en juillet, donc on n'avait plus d'école. En juillet, je vois le journal La Réforme. Grande photo d'un château. Et à vendre. Et juste avant, un mois avant, je commence à sillonner les églises, là. Et je parlais de cette vision. Et donc, j'étais à Lens, dans le nord de la France. Et alors, pendant que je parlais de cette vision, donc nous étions là avec notre Seigneur, donne-nous des locaux. Et un vieux mineur à la retraite vient me voir, il dit, pendant que vous parliez, j'ai une vision. Il a amené le pasteur, il a dit, voilà, je vous ai vu devant un château avec plein d'enfants. Alors moi, un château à Mulhouse, j'ai cherché le château longtemps, je n'ai pas trouvé. Hein. Mais quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, mais c'est ça le château. Mais ce n'était pas à Mulhouse, c'était à 30 km. À Guebwiller, le château de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui était à vendre. Depuis 2 ans, ils n'arrivaient pas à vendre. Bref, on voit ce château, je demande l'histoire de ce lieu. Ils me disent, mais c'est une histoire, une vision pour les enfants. Après la Seconde Guerre mondiale, le cœur de Dieu, les hommes de Dieu ont dit, il faut que les enfants orphelins de la guerre puissent avoir un lieu de vacances, où ils puissent se détendre, passer des bonnes vacances, et puis rencontrer l'Évangile et le Sauveur. C'était la vision. Le château a été acheté pour ça. Ce château, il était utilisé pour les jeunesses hitlériennes. Et Dieu, maintenant, il forme des jeunesses chrétiennes. Et alors, moi, quand j'entends cette histoire, je sens que Dieu me dit, mais c'est là, c'est là. Alors, pas d'argent, pas un sou, même pour les salaires de l'été. Comment faire? Je ne vous donne pas de détails, mais en septembre, nous étions dedans. Et les parents, on a dû faire des travaux d'aménagement, électricité, tout ça. C'est là que M. Ramillon m'a appelé. Ça a été une effervescence. La commune, sans les parents, mais on ne serait jamais né, on n'aurait jamais pu survivre. Parce que les parents, là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le soir, le week-end, ils ont fait l'électricité, ils ont fait les cloisons, ils ont aménagé les choses, des électriciens, des plombiers, etc. Des amis qui venaient d'on ne sait où. Ça a été sous les projecteurs de voitures, le soir, etc., pour que cette école puisse se faire. Et c'est comme ça qu'on a aménagé, on a fait un appel aux dons, on a fait aussi une copropriété, bref, je vous donne un montage financier, et ça a été extraordinaire, parce que dans les 2 mois, eh bien, on est rentré sans tout ça, hein, et on a pu ensuite régler tout ça, et faire une part de crédit, une part de dons, on a vu vraiment la main de Dieu. Et les enfants qui avaient prié pour leur école, qui étaient partis en vacances en juillet, imaginez, ils reviennent, ils rentrent dans un château. Je dis, ça c'était fort. Eh bien voyez, et ses parents, ils se sont investis dans la prière, dans l'intercession. Et mon épouse, alors là vous avez ma petite famille, il a 4 petits-enfants. Et cette année j'ai eu la joie d'avoir mes 2 petits-enfants, les 2 aînés, rentrés en maternelle. Alors je les ai vus, la rentrée en maternelle, ils arrivent, la maman les lâche, ils courent, la maîtresse devant l'école, elle n'a pas pu les arrêter, ils rentrent tellement heureux d'aller à l'école, et ils sortent de l'école, ils louent, ils chantent, ça baigne les amis, ça baigne dans la présence de Dieu. Et c'est là que j'aimerais rappeler que, je ne sais pas si vous connaissez l'origine des écoles maternelles. Allez, on fait un petit coup de spot là. Origine historique. Louise Schepler. C'est bien, bien. Ah ben voilà. C'est cette. Il y avait un jeune pasteur dans les vallées des Vosges au XVIIIe siècle, au Berlin, qui a choisi. Dieu l'a appelé dans ce coin paumé. paumé. Il n'y avait même pas de route ni de pont pour y aller. Il fallait aller à cheval, bref. Et Dieu l'appelle là. Et puis, on lui donne un presbytère, le temple. Et le presbytère, l'eau passait au travers des tuiles, du toit. Il y avait des rats. Et alors, les paroissiens ont dit, bon, on va vous réparer ça. Il a dit, non, vous ne réparez rien du tout. Vous bâtirez une école avant tout. Alors, les gens ont dit, ça y est, on a affaire à un fada. Hein. Et ce pasteur s'est mis tout seul à bâtir l'école. Et au bout de quelques jours, les paroissiens l'ont aidé. Il avait une vision pour la formation, pour enseigner les enfants dans la parole de Dieu. Bref, je passe le temps. Et un jour, il se promène dans ses paroisses, dans ses hameaux, dans les Vosges. Et puis, il entend des chants de louanges dans une ferme. Des chants de louanges de tout petits enfants. Et il était étonné. Il dit, mais il y avait de la neige, c'était l'hiver. Il rentre dans la ferme. Et c'était des fermes avec assez grande superficie au niveau de la salle principale. Et au milieu, vous avez un poêle au centre. Et il voit une jeune fille et plein d'enfants. Et cette jeune fille... Et les enfants chantaient des psaumes. Il dit à cette jeune fille qui s'appelait Sarah Banzé, il lui dit, mais comment, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, mais on ne s'occupe pas de ces enfants, donc moi je m'en occupe. Je leur apprends des histoires bibliques, je leur apprends la prière, je leur apprends ce que je sais, je leur apprends le tricot. Et le premier mot en français pour ces écoles maternelles, ça s'appelait les salles à tricoter, les poêles à tricoter. C'était le premier mot qui désignait les écoles maternelles. Et Sarah Banzé, cette jeune fille, c'est dans les papiers de l'éducation nationale, la première institutrice maternelle, et il y a eu Louise Schepler ensuite, la première inspectrice des écoles maternelles, cette jeune fille qui a donné sa vie pour ce pasteur Oberlin, pour toutes ces écoles. Et un jour, quelqu'un lui demande, c'est quoi ton programme scolaire? C'est assez historique ce que je vous dis. Et c'est dans le livre Les richesses enfouies. Si vous ne l'avez pas acheté, c'est au fond. Alors elle dit, mon programme scolaire, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et ça, c'est l'origine des écoles maternelles en France. Donc, voyez, quand on voit ces histoires, cette histoire de famille, de cœur de pasteur, de berger, de mère et tout ça, c'est l'histoire de France. Alors moi, mes enfants, moi je me régale. Je me dis avec mon épouse, on ne s'est pas donné pour rien. On a nos petits là qui arrivent avec les fistons. Voilà le château. Ceux qui connaissent, c'est l'ancien château de la Ligue pour la lecture de la Bible. Voilà. Et puis, voilà, du terrain. Donc, c'est beau, ça. Ils sont bien, là, les enfants. Moi, j'aurais même pas pu rêver un truc pareil. Hein. Et puis alors, voilà, des vergers. Le verger, un verger, des arbres fruitiers, etc. C'était inimaginable. Inimaginable. Et Dieu, voilà, il est fidèle. Voilà l'équipe, une partie de l'équipe actuelle. Il y a donc, en pratique, une trentaine d'enseignants. Ça va de une heure de présence jusqu'à un plein temps. Et parmi ces 30, voilà un peu ceux qui sont les plus enracinés. Donc notre directeur nouveau, Patrick Schmitt, le deuxième, là, en partant de la gauche. Mon fils, la file de droite au milieu, etc. Des cœurs, des gens consacrés. Alors c'est sûr qu'au niveau salaire, on aimerait pouvoir donner plus. La plupart sont bénévoles, payés au SMIG. C'est pas facile. Il y a parfois d'autres sources de revenus. Mais en fait, une école, c'est quoi? Voyez, c'est... Alors ça, c'est le site de l'ASPEF, l'Association des établissements scolaires protestants évangéliques, et qui regroupe, je peux vous assurer, chaque création d'école est un roman, une histoire. Un jour, j'ai dit aux différents directeurs, j'ai dit, il faut écrire, parce que je peux vous assurer que les miracles qu'il y a eu, et même s'il y a eu des fermetures, comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit quand des gens obéissent et sont mis au travail. Et en fait, en réfléchissant à l'épître aux Éphésiens, lorsqu'il est dit au chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour une habitation de Dieu en esprit. » C'est quoi une école chrétienne? C'est une habitation de Dieu. C'est le temple, c'est les vies, c'est des hommes et des femmes. Et puis ces hommes et des femmes, eh bien, il forme ce temple du Seigneur et l'Esprit de Dieu aime être au milieu et au centre. Et vous avez une vision commune. J'aime bien cette notion de communauté éducative. C'est d'abord les parents. Et regardez les parents de Moïse. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Et ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu. Ce n'est pas la beauté physique dans la Bible. Hein. C'est toujours le sens de la destinée. Et c'est ça. Ils ont vu quelque chose sur leur enfant. Et donc, ils n'ont pas eu peur de l'ordre de Pharaon de détruire. La notion de Pharaon, c'est une principauté spirituelle qui existe toujours aujourd'hui et qui veut toujours avoir les enfants. Et Dieu nous dit, c'est pour ça que Jésus dit, laissez venir les enfants. Laissez venir. Parce qu'il voyait que plein de choses iraient au contraire. Et vous voyez, Madame Danilou, c'est une catholique, une actuelle, qui écrit sur l'éducation, quelqu'un de remarquable, hein, elle est décédée maintenant, mais il y a la suite de la congrégation, ça s'appelle la congrégation de Saint-François-Xavier, quelque chose comme ça. Elle écrit, on éduque les enfants pour les mettre au service de la communauté humaine et servir par là le dessein de Dieu. Marcher ensemble, école, parents, église, dans une même vision, avec une synergie, et c'est ce qui fait la force de ces écoles. Le contexte présent, malheureusement, c'est souvent l'individualisme, hein, un écart entre la liberté personnelle, la capacité de vivre cette liberté en société, l'individu qui exige de pouvoir vivre son propre projet, le bonheur individuel comme sacralisation. Et je dirais qu'aujourd'hui, parfois, on est prêt à tout, mais pas investir pour les enfants. Souvent, je dis aux parents, on investit là où il y a de la valeur. Voilà. Donc, on investit parfois pour des maisons parce que ça a de la valeur pour nous. Jusqu'à combien on est prêt à payer pour qu'il y ait une école? Ce qu'on est prêt à mettre, c'est ce qui détermine notre système de valeur, où on met notre temps et notre argent. L'école chrétienne coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Et je peux vous dire que ça coûte parfois tout, mais le salaire que nous avons, comme on l'a entendu dans le témoignage, est vraiment extraordinaire. Donc on a l'école, communauté de l'Alliance, c'est un peuple de Dieu, et on voit ça déjà au début. Le cœur d'éducateur de Dieu, il veut faire de ce peuple d'Israël une source de bénédiction pour tout le monde. Il appelle Abraham. Je me permets de citer ces écritures parce qu'il y a le cœur de l'éducation ici, d'après moi. Genèse 18:18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ça, c'est le projet pour l'Église aujourd'hui. Je veux que mon Église soit une source de bénédiction pour les nations. Alors, comment est-ce que Dieu s'y prend? Il prend un homme, toutes les nations seront bénies de la terre en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, il va choisir un homme et il lui dit, voilà ma vision pour toi. Alors maintenant, regardez. Genèse 18:19. Écoutez bien ce verset. Je l'ai choisi, Dieu nous a choisi, afin qu'il ordonne à ses fils, à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses. Où se trouvent les promesses? Après le mandat de transmettre. Souvent, nous, on dit, Seigneur, il y a des promesses pour mon pays. Dieu dit, oui, il y a des promesses. Je t'ai choisi, afin que tu transmettes à tes fils et à tes filles, pour que les promesses s'accomplissent. Les promesses ne s'accomplissent pas sans la transmission. Donc, la vision d'éducation, c'est le moyen de Dieu pour accomplir les promesses, parce que notre Dieu n'est pas que le Dieu d'une génération, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et les promesses pour les nations s'accomplissent au travers de la transmission entre les générations. Et ça, l'appel d'Abraham, je t'ai choisi pour que tu transmettes. Ça, c'est le même appel aujourd'hui parce que Dieu a des promesses pour notre pays. Et donc, il nous appelle parents parce qu'il veut qu'on transmette afin que les promesses s'accomplissent. Quel est notre héritage en tant que chrétien? En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, c'est par la justice de la foi. L'héritage pour nos enfants, c'est la terre. L'héritage pour nous, c'est la terre entière. Pas seulement le ciel, c'est la terre. Et franchement, pour ça, il y a besoin d'être formé. Plus on a d'héritage, plus il faut être formé pour pouvoir gérer cet héritage. Nous voyons, nous avons lu tout à l'heure la parole de Deutéronome 6, on la relit. Écoute Israël, donc c'est le peuple de Dieu, Israël, hein, le peuple, la communauté. Notre Dieu est le seul éternel, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. Quand tu parleras, quand tu seras dans ta maison, tu iras en voyage, tu te coucheras, quand tu te lèveras, quand tu les liras. Comme des signes entre sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Donc ça, on connaît cette parole, inculquer la parole. Dieu la commande au peuple de Dieu, d'accord, d'inculquer cette parole. Mais regardez la suite. Est-ce que vous êtes intéressé à la suite? C'est quoi qui suit ce passage? Eh bien, regardez. Voilà. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a promis, qu'il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes, des oliviers que tu n'as pas plantées. La transmission débouche sur l'héritage. Et l'héritage, c'est la terre. L'héritage du chrétien, c'est la terre. C'était une bénédiction pour la terre, pour notre pays, pour les nations. Donc, nous avons cette notion de peuple de l'Alliance. Être sauvé pour un juif, c'est faire partie de la communauté. Le Exode 10:10, Moïse qui répond à Pharaon, la confrontation, on la connaît. Nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, nos brebis, nos bœufs. Le but, c'est quoi? C'est de servir Dieu. Hein, donc, on va y aller. C'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Et Pharaon, au bout d'un moment, il craque et il dit, bon, allez, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Ensuite, il se ravise. Il dit, non. Stop. Allez-vous, les hommes. Pas les enfants, pas les femmes. Donc, c'est quand même intéressant. La main-d'œuvre, c'est les hommes qui faisaient les pyramides. Pharaon dit, les hommes, allez servir Dieu. Ce n'est pas un problème. Les enfants, vous restez ici. Et les femmes aussi. Et Dieu dit, c'est ou tout le monde, ou personne. Donc, il y a l'idée ici d'une confrontation. Il y a une terre promise pour le peuple de Dieu, je peux vous assurer. Notre pays, la France, est comme une terre promise. Et Dieu promet pour les nations une bénédiction. Mais Dieu dit à son Église, il dit, voilà, j'ai pour toi un héritage, c'est ton pays, c'est ta ville, c'est Nîmes, etc. Mais pour ça, il va falloir que tu quittes une Égypte. Et l'Égypte, souvent, elle est dans la tête, etc. Et Dieu voudrait lever un peuple dont les talents, le peuple de Dieu, qui a obtenu la miséricorde, un peuple acquis, un Pierre 2, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Et ça, ce peuple de Dieu-là, il est appelé à rentrer dans un héritage. Et cet héritage, il dépend de la capacité de transmettre et de former que nous avons. Donc, l'éducation me semble au cœur de ça. Éducation, on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire éduquit, conduire dehors. Dieu veut prendre un peuple, le faire sortir pour le conduire où ça? Eh bien, dans son héritage, dans ce que Dieu a prévu pour lui. La puissance de l'unité entre chrétiens, je pense à Nîmes ou autres, c'est... Hein, vous connaissez Genèse 11, voilà, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, c'est là ce qu'ils ont entrepris. Rien ne peut empêcher tout ce qu'ils auraient projeté. Et bien de la même façon, une unité entre les églises pour des écoles et tout ça, je peux vous assurer que c'est extrêmement puissant. Et j'ai ici des... Voilà, vous connaissez l'histoire de la synergie, hein, voilà, il vaut mieux travailler ensemble. La communauté éducative, c'est des parents et des enseignants qui vont dans un même but, qui ont un même cœur pour les enfants, une même vision, qui vont ensemble. Alors là, j'avais des séquences vidéo mais assez comiques, mais vu que ce n'est pas sur mon ordinateur, là, je veux passer. Donc la transmission, c'est toujours dans le cadre de l'alliance. Regardez, comment je peux connaître Dieu? Parce qu'il fait alliance avec moi. Je ne peux pas connaître Dieu en dehors de l'alliance. De la même façon, je ne peux pas connaître mon épouse en dehors du cadre de l'alliance. Le mariage est le cadre de l'alliance, d'accord, par exemple. Donc, mais c'est la même chose pour tous les domaines. Je ne peux pas connaître vraiment les choses, ni l'histoire, ni le français, ni la littérature, si je n'ai pas cette alliance, ce cadre de l'alliance, les yeux que Dieu me donne, d'esprit de révélation, pour dire voilà ma création, voilà cet aspect de la création, voilà ce que j'ai pour toi. Un jour, nous avions, il y a quelques temps, ma sœur charnelle est aussi dans le Seigneur, est prof de français en seconde, troisième, et on a tous les temps un temps de prière avec les professeurs. Et puis à un moment, elle était en larmes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Elle dit, non, mais je sens une intercession. Et je dis, mais c'est quoi? Elle me dit, ben voilà, je me rends compte que notre littérature française, elle transmet une image du Père tellement négative. Molière, le père dont on se moque, Balzac, le père qui est infidèle, tout ça. Et elle dit, mais à quand une littérature qui valorise la famille, la paternité, la beauté, etc. Et c'est une intercession. Et parmi nos élèves maintenant, dans cette communauté, il y a des élèves qui commencent à écrire des romans. Je pense que dans ces écoles chrétiennes, il commence à y avoir une génération qui pense autrement, qui est en train de produire quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut cette relation, ce cœur à cœur. Le mot yada, connaître dans la Bible, c'est le même mot qui est employé lorsque Abraham a connu sa femme, yada. C'est la connaissance intime, personnelle, dans l'alliance. Eh bien, Dieu dit pareil, je veux que tu connaisses ma création dans mon alliance avec moi. Ça, c'est le mot yada en hébreu, tellement riche. Donc, il n'y a pas... Dieu a prévu le cadre de la transmission qui est le cadre de l'alliance. Regardez l'école comme une maison du Père. Regardez, par exemple, l'exemple des Proverbes. On l'a lu tout à l'heure. Mon fils reçoit l'instruction. Élie, Élisée, Paul, l'apôtre Paul avec Timothée. Le premier jour d'un enfant juif, j'aime beaucoup cette histoire, ça vous illustre le cœur de la notion de communauté. Un enfant juif, premier jour d'école dans l'Antiquité, hein, on l'habille de ses plus beaux habits. C'est la fête, c'est la fête. Alors, le papa, il va l'accompagner à l'école, ou la maman, ou l'oncle, mais quelqu'un de la famille. L'idée, c'est qu'il y a une délégation. J'accompagne mon enfant à l'école. Donc, il l'amène chez l'enseignant. Vous savez ce qu'il fait, l'enseignant ? Il prend l'enfant dans ses bras. Il prend l'enfant contre son cœur. Et il lui prend, il lui donne des gâteaux avec du miel dessus. Il lui dit, lèche le miel. Il lèche le miel et sur le gâteau apparaît un verset de la Torah. Et il lui lit le verset. Et le verset qu'ils prennent en général, c'est le verset qui dit, la Torah, ta parole, c'est ma lumière. C'est quelque chose comme ça sur la parole de Dieu. Je n'ai pas la citation exacte ici. L'enfant, ensuite, il lui dit, mange le gâteau. Il mange le gâteau. Et l'enseignant l'amène chez lui. Il prie pour lui, le bénit. Premier jour de l'école d'un enfant juif. Ça vous parle, la notion de famille. Ça nous parle de l'affection. Ça vous parle de la parole de Dieu au centre, qui est comme le miel. Ça nous parle de la notion de maison. Voilà, l'enseignant qui amène chez lui. Ça, c'est fort. Et ça, c'est notre héritage en tant que chrétien. Donc, vous voyez, faire confiance, espérer, aimer, c'est l'attitude du Père envers nous et c'est ça la spiritualité de l'éducation. Et puis, voyez, ici vous avez la photo du temple d'Absalom à Jérusalem. Et ce temple d'Absalom, Absalom disait que de son vivant, de Samuel 18, hein, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi car il disait « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument. Si nous n'avons pas de fils, nous n'avons que des monuments. Et Dieu veut que son Église aujourd'hui ait des fils et des filles. Et qu'il n'y ait pas des monuments qui nous suivent. Comme j'ai parlé de cette académie de Calvin de Genève, il n'y a plus qu'un monument aujourd'hui. Mais Dieu veut qu'on transmette des héritiers, des fils et des filles. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ça, c'est le cœur de Dieu. Et cette communauté éducative, la communauté, c'est un lieu où chaque personne peut être connaître et être connu, aimer et être aimé, servir et être servi, célébrer et être célébré. Une école chrétienne, nous ne sommes pas des établissements scolaires, mais nous sommes des communautés qui gérons un établissement scolaire. Et ce n'est pas pareil. Nous sommes des communautés de parents, d'enseignants qui vivons une foi commune et qui gérons ce que Dieu nous confie. Et si c'est un établissement scolaire, c'est cela. Alors, voyez, nous éduquons les jeunes, pas parce que nous leur disons, bien sûr parce que nous leur disons, mais d'abord parce que nous vivons. Et tout particulièrement dans un établissement scolaire, parce que nous vivons entre nous, adultes, éducateurs. Et les enfants, ils nous observent. Et quel message qu'on veut passer ? Est-ce qu'on le vit, ce message ? Et quand on vit le message, ça passe. Un jour, en 1994-95, nous n'avions plus pour payer les salaires. Moi, je suis le président de l'association depuis pratiquement le départ. Et ma question, c'est souvent comment je vais faire la fin du mois pour payer les enseignants. Parce que ce que payent les parents, ça ne pourvoit pas tout, loin de là. Et donc, pendant 2 ans, on n'arrivait à payer qu'un mois sur deux. en 2 ans, 7 mois de retard de salaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui disent, ben voilà, on vous l'avait dit, c'est pas possible, une école chrétienne. Et puis nous, on était là, Seigneur, au secours. Et puis, en plus des parents, ils ne payaient pas les scolarités parce qu'ils n'y arrivaient pas. Donc, on se retrouve avec des enseignants qu'on n'arrivait pas à payer, des parents qui ne payaient pas les scolarités. Et au niveau du comité, on a crié à Dieu. Le trésorier de l'époque, un jeune homme de 25, 26 ans, je me rappelle, c'était, il dit, je reçois une pensée de Dieu. Il dit, on va remettre les dettes de tous les parents. On s'est dit, ça c'est un peu, on a besoin d'argent là. Hé, ils doivent payer quand même, le service. Il a dit, non, on va remettre toutes les dettes. On a senti que c'était une parole de Dieu. On a remis toutes les dettes. Dans les 2 mois qui ont suivi, les 7 mois de retard ont été pourvus. Les élèves ont vu leurs enseignants. Je me rappelle un enseignant, il avait des chaussures usées. Un élève a vu ça. Il lui a payé la paire de chaussures avec sa tirelire. Les enseignants ont eu des dons dans des enveloppes sur les pare-brises de voitures qui venaient d'élèves et de parents. Et je peux vous dire qu'aucun enseignant n'a manqué de rien, même s'il n'y avait pas de salaire. Et le jour où il y a eu le rattrapage, imaginez, 7 mois d'un coup de salaire, mais c'était Crésus. Et donc voilà cette notion de communauté. On a porté, on a souffert ensemble, on a espéré ensemble, on a vu les victoires ensemble autour d'une même mission. Et voyez, cette mission auprès des jeunes, c'est ce qui fédère cette communauté. Nous sommes passionnés par l'appel de Dieu d'ensemencer une génération. Et voyez, on a besoin de travailler ensemble. On a des réunions de prière, bien sûr, régulièrement. On se soutient les uns les autres. Parfois, il y a des problèmes de conflit. Ça, dans les écoles, il y en a. On essaie de les gérer avant de venir ici. J'en ai eu. C'était pas facile. La semaine que j'ai passée, c'était pas facile. L'ennemi, il se déchaîne sur ces écoles. On a vu l'exemple de Nîmes. Je peux vous dire, c'est vraiment une guerre. Et j'aimerais en profiter pour vous dire, priez pour ces écoles. Comme on l'a entendu pour l'école Marie Durand. On a prié pour moi. Priez pour ceux qui tiennent et qui restent une source d'inspiration pour les autres. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui disait, c'est une catholique, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, elle dit, le but ultime de l'éducation, ce n'est pas seulement d'aider à grandir, à se développer, à découvrir, comprendre le monde, mais d'apprendre à devenir des êtres pour les autres, des êtres avec les autres, capables d'entrer dans la dynamique et la réciprocité du don de soi et de l'accueil. L'intelligence, c'est la faculté de l'autre. Et la Bible me dit, les talents que tu as, mets-les au service de la communauté. Pourquoi un enfant, il apprend? Il n'apprend pas pour lui. Combien de fois on a entendu ça? Hé, tu apprends pour toi. Faux! La Bible dit, les talents que tu as, tu apprends. C'est pour mettre au service de la communauté. La communauté chrétienne, la communauté civile de ton pays. Voilà, tu apprends pour ça. Voyez, cet esprit de communauté, mes amis, il est déterminant dans la vision d'éducation. Et je termine par cette image de ce temps terrible. Il y a eu un temps dans l'histoire d'Israël encore pire que l'Égypte. C'est le temps d'Esther. Lorsqu'il y avait un ultimatum de destruction sur tout le peuple. Comment a fait le Seigneur? Il a pris un homme, Mardoché. Et Mardoché a vu Esther, qui avait plus de parents. Il a dit, viens chez moi. Viens chez moi. Il a accueilli Esther. J'aimerais vous dire que les reines et les rois se forment dans les maisons de Mardoché. Et Mardoché, à l'ombre de cette maison, personne ne voyait, c'est tout petit, une reine est en train de se former. Quand on parle de socialisation et tout ça, je peux vous dire, ça m'énerve. Samuel dans le temple, est-ce qu'il y avait de la socialisation? Mais Samuel, prophète, qui s'est levé dans le temple, seul avec son Dieu, quelque part, a changé la culture et la nation. Quelqu'un qui est avec Dieu, et Dieu c'est la Trinité, la socialisation elle est là, d'abord. Je vis avec la Trinité, on est 4, même si je suis tout seul. La socialisation c'est la Trinité, d'abord. Et alors Samuel, Esther a vécu à l'ombre de Mardoché. Et Mardoché, quel tempérament! Connaissez l'histoire? Il est devant le temple, le palais, et tout le monde fait des courbettes devant les autorités qui sortent. et lui n'a fait aucune courbette. En tant que peuple de Dieu, on a fait assez de courbettes aux philosophies de ce monde. Rationalisme, humanisme athée, étatisme, économisme, tous les ismes possibles. Toute cette éducation qui dit « je ne veux pas de Dieu ». Et nous, on s'est pliés. Et Dieu lève une église de Mardoché avec un cœur qui va adopter des Esther, des gens qui ne savent plus qui c'est le Père, des gens qui sont paumés. Et Dieu dit « dans ta maison, à l'ombre de ma main, je vais former des Esther. » Et des gens qui vont contrecarrer les plans de l'ennemi. Et Esther, ce cœur qu'elle avait avec Mardoché, qui a continué à le servir, à lui obéir, même reine, quelle sagesse! Les Juifs disent que dans la Bible, il y a un sage grand S, c'est Mardoché. Et nous avons, je crois, aujourd'hui, les maisons de Mardoché, ce sont les écoles chrétiennes. L'esprit de Mardoché qui ne plie pas devant les philosophies de ce monde et qui disent « moi, je n'éduque pas sans Dieu et je transmets à mes enfants la vision que leur héritage, c'est le monde », ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, mes amis. Et la notion de communauté est absolument déterminante. Notre mission d'église est une mission de transmettre à la génération d'après, de tout donner. Dans les budgets d'église, il doit apparaître que les enfants ont de la valeur. Et ça va nous coûter cher, parfois ça nous coûte tout, mais Dieu dit, si tu investis là où j'investis, si tu donnes un verre d'eau à un de tes enfants parce qu'il est mon disciple, tu vas recevoir ta récompense. Et en fait, quand on éduque un enfant, ce n'est pas seulement un enfant. Mais Jésus a dit, si vous le faites en mon nom, c'est à moi que vous le faites. C'est à moi que vous le faites. Et c'est pour ça qu'on éduque. Et moi, devant moi, dans ma classe, c'est Saint Augustin, je termine là, il disait dans une classe, il n'y a pas des petits élèves et un maître. Il n'y a qu'un seul maître, c'est Dieu, Jésus-Christ. Un grand élève, c'est le maître d'école, et les petits élèves, c'est les enfants. Un seul maître. Et nous avons besoin de retrouver une éducation où on laisse le seul maître éduquer, dire ce qu'il a à dire, transmettre une autre vision du monde, un autre rapport à l'enfant, une autre vision de la communauté, de l'alliance. Et ça, c'est ce qui va tout changer. Voilà, mes amis, ce que c'est cette vision, ce qui est derrière la notion de communauté. Tout seul, on ne fait pas grand-chose. Mais on est avec la Trinité, on est avec la communauté des croyants, et nous avons au milieu de nous toutes les ressources. Tout est au milieu de nous. Je suis convaincu, tout est au milieu de nous. Il suffit de se lever et de dire « Oui, Seigneur, j'y vais ». Dans mon église locale, il y a des tas de gens qui ne savaient pas leur place. Je vous assure, dès qu'il y a une école chrétienne, tout le monde bosse. Alors là, je peux vous dire, hein, tout le monde, déjà une église, c'est du boulot, mais une école aussi, et tous les talents sont là. Les grands-mamans, les papis, les mamies, les amis, tout le monde, tellement c'est du boulot. Mais quelle joie d'être dans cette ruche de vie pour notre pays. Alors voilà, je termine la notion de communauté. Voilà, on va faire une pause.
Merci. Prends 5 minutes pour les questions, s'il y en a. Après, sinon, on se retrouve à 20h. Hein, on recommence à 20h. Donc, si vous avez le pique-nique, vous pouvez rester là. Sinon, il y a un McDo. Si vous retournez sur la route de Nîmes, sur la droite, vers l'Intermarché, il y a un McDo. Voilà, et à 20h, on se retrouve. Mais est-ce qu'il y a une ou deux questions, peut-être? Sinon, ce soir, on va parler encore plus concrètement des écoles chrétiennes, d'autres fondements, etc. C'est bon? En tout cas, merci à Liliane aussi pour son témoignage. Merci d'être venue. C'était super. Bon appétit à tous.